pleasure, pleasure.
Dans une réalité alternative, un énorme complexe d'ordinateurs en réseau, issu d'une fusion entre Google, Alphabet et Apple, dirige le monde. Ce consortium optimise au mieux les ressources disponibles sur Terre aux envies profondes des gens, qui sont calculées selon un algorithme savant issu de leur profil Facebook. Le travail a disparu. Seule une journée de corvée est demandée aux citoyens pour curer les égouts en recyclant les métaux lourds ou nettoyer la campagne à la main en préservant les espèces protégées. Il est interdit de jeter un papier dans la rue. On doit recycler les crottes de son chien de notre potager collectif de quartier. Tout est optimisé au quart de poil. Les partis politiques, inutiles, ont été remplacés par un mouvement d'opinion qui décide pour 4 ans des tendances. Mode vestimentaire, musique, jeux de société. En ce moment, la mode, c'est bikini noir et blanc pour tous. De toute façon, avec le réchauffement climatique, la température moyenne est de 28 degrés toute l'année. En musique, une intelligence artificielle génère des chansons de K-pop à partir des textes de Maître Gims, chantés par un synthétiseur vocal de Michel Despech. Niveau jeu de société, deux mouvements s'affrontent. Les élections ont lieu sur Twitter. D'un côté, le cube en bois, et de l'autre, l'Alija. Monsieur Feld, leader cube en bois, a remporté les dernières élections. Et depuis, il impose une discipline de fer à la matière d'un jeu de gestion. Seules 5 couleurs et 12 pistes de score sont autorisées. Attention, le BVG veille. Allons voir qui nous avons là. Monsieur Schutz, Daniel Denis. Une plainte a été émise à son encontre sur le site Proxy Jeu avec un i. Je vais l'appeler pour tirer cette histoire au clair.
Allô, oui, à qui ai-je l'honneur ?
Allô, monsieur Daniel Denis Schutz ?
Oui, qui est à l'appareil ?
Inspecteur 37 du BVJ.
Inspecteur Paul de chez Paul.
Vous avez déjà fait cette blague au dernier épisode et c'était déjà limite. Alors je vous conseille de ne pas remettre ça.
Bien, monsieur. Vous me dites que vous êtes inspecteur de quoi ?
Inspecteur du BVJ, le bureau de vérification des jeux. Vous connaissez ?
Oui, bien sûr, monsieur.
Je vous appelle suite à une plainte sur le site de presse de Proxy Jeux.
À quel sujet cette plainte ?
Il paraîtrait que d'une part, vous vous complaisez dans les jeux de mots approximatifs et de mauvais goût. D'autre part, vous n'avez pas réglé votre cotisation à la Sainte Église de la gamification.
Est-ce vrai ? Aurais-je offensé le pape, sa Sainte Aigus ?
Pas encore, mais si vous ne payez pas l'église, vous ne bénéficierez plus de l'action supplémentaire le dimanche.
Oh, vous savez, moi le dimanche, je fais pas grand-chose. Mais je vais m'acquitter de mon obole au plus vite.
Bien. Alors, je vois dans votre dossier que vous avez déjà fait de l'humour pendant une partie d'un jeu Splotter. C'est une grande infraction. Nous allons venir chez vous pour une inspection anale.
Pardon ?
Une inspection analytique et numérique de l'alphabétisation de la ludothèque.
Ah, vous me rassurez, je pensais que vous alliez visiter mon clasque.
Votre quoi ?
C'est un mot viking qui, pour parler de... comment dire, sans être vulgaire... vous savez, ce sur quoi on s'assoit ?
Ah, une chaise.
Non, pas tout à fait. Laissez-moi vous faire écouter Cyrus, il vous explique ça. Vous allez être sur le cul.
Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. C'est à nouveau Cyrus et cette fois-ci c'est pour la chronique du jeu du mois. Alors ce mois-ci je vais vous parler de Clask. Clask c'est un jeu d'adresse du genre de ces jeux en bois assez connus comme le Tumbling Dice ou encore le Waykick. L'auteur de Clask est un Danois, il s'appelle Mikkel Bertelsen. Il s'agit d'ailleurs à la base d'une auto-édition de cet auteur qui aurait créé le premier prototype dans son garage, un fable ou réalité, qu'importe. Clask, c'est donc un de ces jeux en bois qui s'apparente beaucoup au Wakik. Donc c'est un jeu qui est constitué d'une structure en bois avec un terrain divisé en deux parties, une balle, un but de chaque côté et un pion contrôlé par chaque joueur par le dessous du plateau au moyen d'un système aimanté en fait. Les différences, c'est que le but est creux au lieu d'être au bout du terrain, donc c'est un creux de forme ronde autour duquel en fait il est possible de passer avec son pion. Et surtout, si vous frappez fort, en fait, la balle va rebondir et va pas du tout rester dans ce trou. En fait. Donc, ce qui va avoir une importance dans le jeu, puisque on va tout de suite comprendre que y aller fort et comme un bourrin, ça va pas marcher. Notre différence, c'est qu'il y a également trois petits aimants qui sont positionnés au milieu du terrain en début de manche. Et ces petits aimants en fait vont pouvoir se déplacer typiquement via la balle ou venir se coller au pion des joueurs. Alors, ce sont ces deux petites différences hein, qui sont complètement fondamentales dans le jeu. En effet, donc, pour marquer des points, évidemment, on peut. La première façon de marquer, ça va être de mettre un but, donc de mettre la balle dans le but adverse. On va également pouvoir marquer si l'adversaire perd le contrôle de son pion ou s'il fait tomber son pion dans son propre but. Donc en gros, vous provoquez la faute chez l'adversaire. Et quand le pion tombe dans le but, c'est ce qui va produire le son qui a donné le nom au jeu, le clask. Honnêtement, je trouve pas que ça ressemble à un clask. J'imagine que c'est plutôt l'onomatopée danois. Et la dernière façon de marquer, très importante également dans le jeu, c'est que votre adversaire se retrouve avec deux des trois aimants collés sur son pion. Alors ça c'est évidemment ce qui va faire tout le twist du jeu, puisque c'est là que le jeu va prendre une dimension stratégique, c'est-à-dire qu'on va typiquement il va être possible de jouer avec ses aimants, d'aller les positionner dans le camp adverse pour limiter les mouvements de l'adversaire, et puisque évidemment s'il se prend les deux aimants il va perdre un point. D'ailleurs on a souvent au début cette hantise de prendre les aimants, qui fait que on va des fois prendre un but alors qu'on n'a aucun aimant sur soi. Il faut pas oublier qu'un seul aimant ça fait rien quoi. Mais psychologiquement, on prend un aimant, c'est un pas vers le point pour l'adversaire. Voilà, on va jouer ainsi frénétiquement, ou pas d'ailleurs, puisque du coup le jeu va se jouer parfois par des petits coups. Les joueurs vont souvent sur leur première partie jouer un peu comme des bourrins avec des ricochets dans tous les sens et se rendre compte que c'est pas forcément la meilleure façon de gagner. Donc on va jouer comme ça jusqu'à ce qu'un joueur arrive à 6 points et gagne ainsi la partie. À ce moment-là, le perdant va forcément demander sa revanche, ce qui fait que la partie qui est censée durer 10 minutes va plutôt durer une demi-heure, tant le jeu est addictif. Bon, c'est pas du tout un reproche de ma part. Chez moi, c'est un jeu qui a vraiment séduit tout le monde. Je l'ai sorti à Noël, toute la famille y a joué, même les non-joueurs. Et malgré que ce soit un jeu en bois, ça reste quand même assez transportable. Le format, c'est quoi ? C'est environ 50 cm sur 40, je dirais. Avec une hauteur de peut-être 20 cm. Le jeu tient dans une boîte en fait, donc du coup si vous gardez la boîte, vous pouvez continuer à le transporter comme ça. Ça fait un peu valise. Certes, ça ne prend pas zéro place, hein, mais voilà. En plus, on peut encore glisser des jeux en dessous. Donc ça c'est finalement l'espace n'est pas complètement perdu quoi. Voilà. Si je dois lui faire un reproche à ce jeu, c'est sur les finitions. En fait la structure c'est du contreplaqué et au déballage on va trouver des petits éclats de bois. Alors ça gêne pas pour jouer hein, mais évidemment ça dénote quand même au niveau de la qualité du matériel. Donc Clask c'est quand même un jeu qui a remporté un prix au Danemark. Bon, voilà, c'est un prix au Danemark, mais c'est un prix spécial du jury au Danemark en 2014. Alors là vous me dites, mais alors c'est pas un jeu tout récent en fait, 2014. Eh bien si, parce qu'en fait en décembre, Clask a été distribué, enfin depuis décembre, Clask est distribué en France par Gigamic. Et donc on le trouve un peu partout maintenant en France. Voilà, c'est un jeu donc qu'on va trouver au prix de 49,50€. Typiquement vous le trouverez chez Philibert. Et ça se joue exclusivement à deux. Sachez qu'il y a une version apparemment pour 4 joueurs qui serait en préparation. donc qui doit être jouable, si j'ai bien compris, qui serait jouable du coup de 2 à 4, avec une forme ronde, etc. Voilà. J'attends avec impatience de pouvoir tester cette version. Voilà. En attendant, vous pouvez donc vous ruer sur le Clasque pour 2 joueurs, 49,50€ chez Philibert. Allez, à bientôt, et d'ici là, jouez bien.
En effet, c'est plus clair, mais cela ne vous épitera pas l'inspection pour autant. Tenez-vous prêt, j'envoie une équipe chez vous. Encore un anarchiste qui ne classe pas ses jeux correctement. Ah, guten Tag, cher confrère. Bonjour, qui êtes-vous? Je suis l'inspecteur Saint-Cys de Francfort. Je suis là pour le rapprochement franco-germanique. Ah, enchanté, cher collègue. En quoi puis-je vous aider? Nous autres collègues du BVG allemand, nous avons mené un interrogatoire musclé et je voudrais que vous me donniez votre expertise. Un interrogatoire musclé? De qui? Framboisier? Rémy? Minet? Nein, d'Eric, inspecteur. L'inspecteur d'Eric? Lui, c'était une taupe. Nein, d'Eric est un grand expert. Et d'ailleurs, dans les musclés, c'est René la taupe.
Si, mignon, 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 go, go, go. Mignon, 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 go, go, go.
C'est Eric qui a travaillé sur les décors de Conan. Faites-moi écouter cet interrogatoire. Qui sont les agents? Leur nom de code, c'est Ultralord et Koju. Voyons ce dossier.
PNP. Dai et Scalpel. On retrouve l'agent Ultralord et l'agent Courju pour La vérité est d'ailleurs.
Bonjour les makers et bonjour les makeuses et bonjour Guilin.
Salut à tous.
Et bonjour Eric.
Salut tout le monde.
Donc aujourd'hui un épisode avec un invité où nous allons parler de diorama. Voilà, c'est preuve que je maîtrise pas le sujet. J'ai déjà du mal à le dire. Bonjour Eric. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de nous expliquer un petit peu ce que tu fais, les premières choses que t'as fait, un petit peu d'où ça t'est venu, tout ça.
Ah, ça oblige à remonter loin, ça. En fait, à la base, je suis un joueur de figurines. Donc, automatiquement, qui dit figurines posées sur une table, dit envie d'agrémenter les moches plateaux tout verts avec des choses un peu plus chouettes. Et donc, du coup, ça a commencé là. Donc, vouloir fabriquer des petits éléments de décor. Et il n'y a pas si longtemps que ça... Parce qu'en fait, des petits éléments de décor, ouais, ça va un petit bout de temps. Et j'avais envie de me lancer un peu des challenges. Donc du coup, je me suis intéressé à monter en fait des plateaux de jeu, on va dire ça comme ça, en 3D. Le tout premier que j'ai fait, je crois, en gros truc, hein, c'était pour Crossmaster Arena. Et en fait, j'avais envie de donner envie de jouer à mes filles. Et je me suis dit, bah, pour donner envie, enfin, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut faire un truc en 3D. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et du coup, j'ai pris goût, même si ça prend énormément de temps, j'ai pris du goût et puis j'ai enchaîné alors avec des tables de jeu j'ai fait une table de jeu pour Zombicide, pour Zombicide, et puis plus récemment, donc du coup, je suis tombé sous le charme de Conan et des superbes maps qu'ils avaient, et donc là je me suis dit non, c'est pas possible, un univers pareil, je vais pas pouvoir jouer à plat. Et donc j'ai chopé les images qu'ils avaient sur le net. Ils ont publié des images en basse résolution sur de quelques plateaux. J'en ai pris une et je me suis dit, allez, je me lance. On va faire ça en 3D. Et donc, c'était la première grosse map en 3D. C'était le village Pict.
Oui, alors du coup, alors pour les auditeurs, c'est pas toujours évident, mais du coup, t'as lancé un groupe sur Facebook où tu mets tout ce que tu fais. Donc c'est Budalas Work. Et du coup, là, j'étais en train de rechercher. Donc là, je vois l'étape de Conan que t'as fait, mais je retombe aussi sur le Crossmaster Arena que t'as fait en 3D et qui, comme toutes les autres tables, sont magnifiques. Donc du coup, si vous voulez vous donner une idée de ce que ça représente, n'hésitez pas à aller faire un tour pour voir ce qu'on peut faire en 3D. Alors du coup, pour Crossmaster, par exemple, qu'est-ce qui... Enfin déjà, est-ce que ça a marché avec tes filles? Ah, bonne question.
Pas trop en fait,
Pas trop.
mais je me demande si c'était pas peut-être pas juste un prétexte pour moi
Ouais.
pour me lancer dans le truc, parce qu'au final ça m'a, enfin moi ça m'a bien plu, je me suis bien éclaté en fait. Je crois que mon moteur c'est ça, je m'éclate à faire ce genre de table, ça m'amuse, et donc du coup je prends la moindre occasion pour essayer de faire quelque chose. Bon, la plupart du temps, c'est des jeux auxquels je joue automatiquement à la base. Et du coup, ben, tous mes partenaires de jeux du secteur en profitent aussi. Donc, on en discute, ils me motivent, toujours des nouvelles idées. Et voilà. Après, que dire de plus? Donc, ouais, je mets tout, je fais un peu de, il y a un peu de tout, hein, sur Budalas Work. Mais je préférais, enfin, j'aime bien l'idée de rendre accessible tout ce que j'ai pu faire aux gens, aux curieux, ceux qui veulent voir ce qu'on peut faire. Parce qu'à la base, mon truc, c'est aussi de prouver qu'on peut le faire avec un minimum de moyens et de connaissances entre guillemets en bricolage.
Alors du coup là je parcours un petit peu tout ce que t'as fait parce que je sais que t'as adapté un jeu de Purple Brain je crois il
Ouais,
y a
c'est
pas
ça.
très longtemps
Le petit Japon. Oui.
ouais alors du coup ça c'est parti comment? C'était un
Alors
défi ou
ça,
toujours pour faire
ouais.
jouer tes filles?
Non, ça c'était un défi. Donc en fait, il y a deux causes à ce plateau-là. La première, c'était en avril l'année dernière, j'ai eu l'occasion d'aller chez Trick Track pour tourner des Trick Track TV suite à l'invitation de Trolley Dooley pour parler bien sûr 3D pour Conan. Et là, il y a Monsieur Fall qui me dit ouais, mais le 3D c'est bien pour des jeux comme Conan. Bah, les jeux où un peu plus de gestion, c'est pas faisable. J'ai dit bah si, c'est faisable. Voilà, ça c'était la première petite pique. Et la deuxième, c'était à Essen au mois d'octobre, où sur le stand Conan, j'ai eu l'occasion de croiser Benoît Forget de Purple Brain. Et pareil, lui il me dit ouais, 3D c'est sympa, mais bon, pour mes jeux, je vois pas trop comment ce serait faisable. Et là, pareil, je dis, non, c'est pas possible, les gars. Vous allez pas vous y mettre aussi là. J'ai dit, c'est faisable. Je vais faire quelque chose. Donc du coup, ça a duré, cette conversation avec Benoît Forget, ça a duré 2, 3 minutes, hein, pas plus. Et après, je l'ai contacté, j'ai pris contact sur Facebook avec lui. On a un peu échangé. Et donc du coup, il m'a filé de quoi imprimer le plateau de jeu, parce que j'avais pas le jeu. Et donc du coup là, je me suis lancé le défi pour prouver que même pour des jeux un peu plus classiques, parce qu'on n'est pas encore dans de la gestion pure, on peut faire du 3D, et ce 3D, ça peut donner, enfin parce que le but c'est qu'il y ait plus d'immersion, qu'on soit plus dans le jeu.
Ah bah là je suis devant les photos, enfin c'est juste enfin c'est impressionnant, enfin j'ai pas joué au jeu, mais je pense que même s'il est mauvais, tu peux faire jouer des enfants avec la version que t'as, parce que enfin, c'est juste c'est magnifique, enfin tous les arbres, enfin ça fait la forêt et tout, enfin c'est magnifique. Alors d'ailleurs on va aborder un peu la partie technique, mais créer une table comme ça prend combien de temps? Ah, bon, ça
Alors,
dépend forcément de beaucoup de choses, mais
juste pour conclure sur la table du petit chaperon rouge, pour les gens qui iront au festival du jeu de Cannes, ils auront l'occasion de la voir sur le stand de Purple Brain. Voilà. Donc en termes de temps, ben là pareil, je compte pas trop mon temps puisque c'est du loisir. Donc je fais ça le soir en rentrant, une fois que les enfants sont au lit, ou alors le week-end. Donc j'étale ça sur ça va dépendre, ça va vraiment dépendre. Alors je vais prendre un exemple, hein. La table du petit chaperon rouge, j'ai pas le nombre d'heures en tête, mais j'ai fait ça sur un mois et demi. Je l'ai étalé, hein.
Ok.
Sachant que en termes d'heures, pour des tables comme celle pour Conan, faut compter 40-50 heures. Donc 40-50 heures, ça comprend tout parce qu'il n'y a pas que la partie fabrication. Il y a aussi la partie en amont conception. C'est-à-dire que il suffit pas de prendre le plateau en 2D et de le monter à l'identique en 3D parce qu'il y a des choses qui vont pas être jouables. Il faut absolument garder à l'esprit que le 3D doit rester jouable. Donc ça doit être pratique, pas trop encombrant, tout en retraduisant de manière la plus proche possible la version originale. Donc du coup, il y a automatiquement des petites choses qui passent à la trappe. Et donc là-dessus, ouais, donc quand je dis 40-50 heures, ça comprend cette partie-là. À réfléchir à comment on peut monter telle ou telle pièce, où est-ce que je pourrais trouver les accessoires pour faire ça et ça, ce genre de choses.
Alors du coup, pour les gens qui seraient curieux et qui voudraient se lancer à faire du diorama, c'est quoi les étapes, en rentrant un peu plus dans le détail, tu disais la conception, après récupérer des pièces, des décors, etc. Enfin, c'est quoi le... Si par exemple, demain, je veux me lancer sur... l'adaptation en 3D de, je sais pas, n'importe quel jeu, ce serait quoi les étapes à suivre pour toi, la checklist minimale pour que les gens se rendent vraiment compte de un petit peu par où faut passer, comment on fait, enfin, j'imagine qu'on commence par faire le fond, etc., et puis qu'on va rajouter les décors, et puis qu'on va peindre, etc., mais il y a peut-être des choses qui doivent se faire avant d'autres, ou tu t'es fait avoir dans tes premières réalisation, par exemple.
Ouais, donc automatiquement, ouais, on s'améliore avec l'expérience. Et en fait, alors la première des choses qu'il faut, c'est une version originale, enfin une version papier dans les dimensions qu'on veut. Donc, par exemple, si tu veux faire une table en 30 par 30, il faut que tu puisses te débrouiller pour avoir un support papier de 30 par 30. C'est comme ça que moi je procède. Parce qu'après, si par exemple il y a des, après je procède par, on va dire, par couche, par superposition de couches successives, c'est-à-dire que je prends du calque et je me trace les zones particulières, celles qui sont surélevées, s'il y a des bâtiments, pour les contours, pour pouvoir après les placer sur le support de base. Alors le support de base, c'est une plaque de polystyrène qu'on trouve chez Leroy ou chez Casto. Donc du coup, ça va être la base. L'épaisseur peut varier en fonction de ce qu'on veut faire. Si on veut, s'il y a plus ou moins de relief. Et après, je trace là-dessus. Je trace les différentes zones sur ce support-là. Et ensuite, j'attaque morceau par morceau en rajoutant des couches successives. Donc après, ce qu'il faut, là où j'ai pu me faire avoir, ouais, effectivement, c'est que souvent, avant de poser la couche du dessus, pour la peinture, vaut mieux passer une sous-couche en noir avant de coller la pièce au dessus, parce que pour tout simplement, c'est qu'après il y a des zones qui sont plus vraiment accessibles en termes de peinture avec le pinceau, et ça fait toujours moche si quand ton truc est fini tu prends une photo, et puis sur la photo tu vois dans le coin là-bas un grand carré blanc parce que t'as pas réussi à le peindre correctement. C'est toujours embêtant. Et donc après, matériel, donc plaque de polystyrène, de la colle à bois, Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la superglue, qui est un produit magnifique, n'est-ce pas? Mais si vous en mettez sur du polystyrène, ça le fait fondre. Donc c'est pas trop approprié. Donc moi j'utilise de la colle à bois qu'on peut trouver pareil en tube, colle à bois prise rapide. Moi j'ai ça, c'est un truc genre 2,50 € en supermarché. Et c'est parfait. Un cutter avec une bonne lame, une règle, un petit scalpel pour faire des petites découpes. Si par exemple vous avez des parties en bois, alors pas, voilà, en bois. Pour tout ce qui est bois, j'utilise pas du vrai bois, c'est du balsa. Balsa, ça c'est, on trouve, on commence à en trouver dans certains magasins de bricolage, mais seulement, autrement tout ce qui est boutique d'art, comment ils appellent ça, art et création. Graphigros, ce genre de choses. Tu trouves ça là-bas. Et donc ça fait, c'est hyper léger, c'est pas trop cher, ça se taille vraiment bien. Pour faire du bois, il n'y a pas mieux parce que les rainures du bois, ils sont déjà, donc on n'a pas besoin de les faire. Et après, on trouve ça en planches, en poutres de différentes tailles. Donc en gros, il y a ça. Après, il y a l'imagination, quoi.
Parce que là, par exemple, je suis sur les photos de la taverne que tu as fait pour Conan, où forcément, du coup, il y a des palissades en bois, etc. Du coup, ça, c'est du balsa.
Ça, c'est du
Et
balsa,
que
ouais.
tu as découpé en petites lamelles et collé les unes à côté
Voilà.
des autres? D'accord.
Voilà, c'est ça. Donc, en fait, le gros du boulot, là, enfin, ce qui prend le plus de temps, hein, c'est que chaque latte de parquet,
Ouais,
tout a été
c'est une latte de
coupé,
balsa.
une latte par une. L'usure sur chaque latte, c'est au scalpel pour faire les usures, les coins cornés, enfin, les coins qui manquent et tout. C'est un par un et après coller un par un. Et pour les parties, toujours sur cette table, il y a pour tout ce qui est en général, partie en pierre, que ce soit un dallage, mur, pareil, j'utilise du Dépron. Alors Dépron, c'est un isolant phonique qu'on trouve, pareil, dans les magasins de bricolage. Moi, je le cherchais Leroy Merlin. Et en fait, je le grave au stylo. Donc je trace tout, je trace les différentes formes que je veux au stylo. Je fais plusieurs passages pour bien marquer, parce qu'en fait, si tu n'appuies pas assez, en fait, faut que le Dépron il se déchire un petit peu pour garder la marque du dessin. Et ça marque super bien. Et donc c'est l'idéal pour tout ce qui est. Et ça, c'est super léger aussi. Et donc ça, c'est l'idéal pour tout ce qui est pierre.
D'accord, oui, parce qu'en fait, ça ressemble un peu à du polystyrène. Enfin, je vois, en tapant Dépron sur Google Images, on voit plein d'avions en polystyrène, enfin, en Dépron. Et du coup, oui, ça ressemble, enfin, à une sorte de mousse plastique.
Et les dalles dans le petit chaperon rouge, les dalles en pierre, c'est du Dépron aussi?
Oui, aussi, oui. Et donc là, je me
D'accord.
suis amusé à le découper en rond. Chacune des petites dalles.
Et donc le
Après.
motif pierre un peu rainuré, c'est pareil au stylo ou au scalpel, tu graves chaque pierre comme ça?
Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Donc là, j'utilise pour tout ce qui est pour faire des si c'est du sol en vieux caillou, en vieille pierre, j'y vais au gros stylo bic, hein. Et s'il faut que ce soit genre des briques ou des trucs comme ça, là, c'est à la pointe de critérium. Toujours plusieurs passages. Et après, selon l'effet que tu veux donner, hein, il y a un truc tout con pour l'usure, c'est que tu vas dehors dans un chemin de terre et tu récupères une grosse caillasse, pas lisse, hein, faut qu'elle soit bien granuleuse. Et en fait, tu l'appuies sur le Dépron.
D'accord, et du coup ça fait des marques pas régulières et c'est. Alors, je vais avoir une autre question parce qu'après du coup là sur donc je vois toujours sur la table de la taverne pour Conan. Du coup après fait faut de sacrés talents en peinture, non? Ou pas tant que ça, parce que après avoir réalisé donc au stylo bic toutes les petites rainures des pierres, avoir découpé les planches en balsa, etc. Du coup, pour que ça ait des couleurs plus naturelles, il y a forcément tout un travail de peinture.
Bah, en peinture, enfin, ça reste ça reste relativement classique, hein. C'est-à-dire que il y a une sous-couche de noir, donc que j'applique du coup pas à la bombe aérosol, parce que sinon pareil, ça va faire fondre le dépron et le polystyrène. Donc c'est au pinceau, au gros pinceau. Voilà, j'achète des gros pots de peinture noire, et donc une sous-couche en noir sur toute la surface du plateau. Et après, ce sont des couches successives de gris que j'éclaircis à chaque fois. Donc, sachant que sur la couche de noir, on peut y aller franco. Hein, faut qu'il y en ait partout dans les petits interstices. Faut vraiment qu'il y ait aucune trace de blanc. Et après, pour les couches successives, ta peinture, elle doit être, ça doit être plus sec sur le pinceau. Hein, faut pas que ce soit.
Ouais, liquide. C'est du brossage à sec.
Voilà, c'est du brossage, et donc du coup tu passes par petits coups dessus, et donc du coup les creux restent dans une couleur plus foncée, et donc là tu passes 3-4 couches en éclaircissant au fur et à mesure, et sur la fin t'éclaircis que les arêtes. Et après, si tu veux salir le tout un petit peu, tu fais le contraire, hein, tu prends du vert, du brun, tu peux faire des mélanges, faut que ça fasse crado. Et là, par contre, ouais, tu dilues bien pour que ce soit bien liquide et puis que tu puisses bien tartiner pour des endroits pour que ça fasse coulure.
Ouais, c'est pour que c'est les encres. Enfin, pour ceux qui sont habitués en figurine et qui achètent leur pot tout préfet, c'est les lavis à l'encre, c'est ça.
Voilà, mais en fait, moi, j'utilise pas d'encre.
Oui, mais après, en mettant en diluant un peu plus avec de.
Voilà, mais sur le principe, c'est exactement ça. Et après, il y a certains éléments que je peux pas fabriquer moi-même. Pour rendre le plateau un peu plus vivant. Donc toujours par on parle toujours sur le plateau de l'auberge là. Il y a deux pièces, il y en a une avec une table et un bougeoir, et il y a une pièce, c'est une sorte de cave avec des entrepôts, il y a des tonneaux, des sacs de riz. Donc voilà, j'ai aucun talent en sculpture. Donc vraiment aucun, hein, une vraie quiche. J'ai pas le temps où je veux pas me prendre le temps d'apprendre, parce que du coup je pourrais passer moins de temps à faire des tables, et donc du coup là j'ai acheté des éléments finis, donc tout ce qui est tonneaux, sacs de riz, bougeoirs, des petits accessoires comme ça, j'achète ça fini, je le peins, je le rajoute au décor, mais ça donne un petit plus à la table.
Et du coup, une nouvelle question technique, matérielle, comment tu fais des arbres?
Ah oui, parce que la table du petit chaperon rouge, il y a plein d'arbres et tout ça.
Mais même, il y en a une avec un fortin, avec plein de verdure.
Ah oui, bah c'est la deuxième table de Conan, le donjon. Enfin, je sais pas comment elle s'appelle exactement.
Ouais, c'est le fortin en ruine. Eh ben en fait, honte à moi, les arbres, je les achète.
Mais non, mais c'est important de savoir, parce que moi, quand je vois ça, si on me dit que je peux tout faire moi-même, je n'y crois pas et je ne le ferai jamais, je n'oserai jamais me lancer. Donc c'est rassurant aussi des fois de se dire que des fois, juste en achetant, c'est pratique aussi. Après, c'est forcément un budget, mais c'est...
Voilà, ouais.
Mais on peut pas tout faire non plus.
Voilà, je pars du principe qu'on peut pas tout faire, ou encore... On peut presque tout faire. En cherchant sur le net, il y a des techniques pour faire les arbres soi-même, mais du coup, ça prend des plombes et des plombes. Et après, il faut trouver le ratio entre est-ce que ça vaut le coup que tu rajoutes 30 heures ou 40 heures de travail pour avoir 5 arbres, ou est-ce que tu vas claquer 20 euros pour avoir tes 5 arbres tout finis et on n'en parle plus. Donc à certains moments, ouais, je prends cette option-là. Donc c'est le cas pour tout ce qui est arbres et verdure en général. Donc les buissons qu'on peut trouver sur le fortin en ruine, c'est de la mousse qu'on peut même trouver, pas besoin d'avoir des magasins spécialisés, hein, pour la mousse. On trouve ça même dans les jardins, dans des jardineries, ils vendent ça en petites boîtes. Et les arbres, c'est sur le net, dans des boutiques de modélisme, tout simplement.
Oui, parce qu'en effet, ça me faisait penser à tous les trucs de train électrique, des décors, c'est vrai que on pense à ça, et c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé. Enfin, j'avais vu d'autres personnes avant toi faire ça, mais c'est tout récent que je me suis dit que finalement on pouvait appliquer ce genre de technique-là au jeu de plateau, c'est finalement les mêmes réactions que tu nous racontais tout à l'heure que les gens de Purple Brain avaient, c'est-à-dire tant que tu as pas vu, tu te dis pas tiens en effet un plateau de jeu comme ça pourquoi pas. Alors que pour les trucs de train électrique, ça paraît tellement évident parce qu'on en a vu et revu. Finalement, c'est les mêmes techniques qui sont appliquées à un domaine différent. Je trouve que c'est, enfin, clairement, ça fait partie de l'état d'esprit de ce que j'essaye de pas d'inculquer parce que je m'en fiche, je suis pas un gourou et je veux pas imposer mes visions, mais en tout cas, c'est une vision que j'aime beaucoup, l'idée de dire. Ouais, mais attends, t'as vu ça dans un coin, garde-le dans un coin de ta tête parce que ça te servira pour autre chose, ou t'as vu cette technique qui est utilisée dans tel domaine, tu sais pas si tu vas pas pouvoir l'utiliser dans tel autre domaine, quoi. Et je trouve ça vraiment dans ce sens-là et ça me plaît beaucoup.
Ouais, en fait, c'est ça tout le truc, hein. Tu pioches à gauche, à droite, tout ce que tu peux. Même après, en termes de matériel, en ce qu'on appelle des rabiots, hein, des petits déchets, au grand désespoir de ma femme, je ramasse tout ce qui est possible, tout ce qui pourrait éventuellement me servir. Et j'ai des trucs qui ont traîné à la cave chez moi pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, il me le fallait sur une table. Et j'ai fait ah si je sais ce truc là, je l'ai dans la caisse là, ça fait 2 ans que ça poirote. Maintenant je peux le sortir. Et du coup, quand ça t'arrive, t'es tout content.
Donc, comme quand moi je vais à la plage, je sors mon petit sac et puis je ramasse des coquillages, des petits galets et puis des petits bouts de bois flottés. Donc, tu fais un peu ça aussi quand tu vas te balader en forêt. Parce que du coup, c'est plus loin de la mer, Strasbourg.
Légèrement.
Ouais, c'est un peu plus loin, mais pareil, un petit sachet pour le sable aussi. Parce que le sable, c'est super pratique.
Ouais, ben justement, j'allais te demander parce que c'est pas loin de ça sur la table pour du petit chaperon rouge. Donc il y a plein d'herbes et tout, donc c'est comme les techniques pour faire les socles en figurine ou du coup tu utilises d'autres choses parce que autant sur de la figurine, enfin du Warhammer etc, les socles ils sont tout petits. Là quand on fait un plateau, c'est quand même des quantités de matériel qui sont un peu plus importantes. Du coup, t'as peut-être des solutions des systèmes D pour
Bah le système D ça revient à ce qu'on a dit, hein. Enfin il y a des bonnes choses à piocher dans tout ce qui est boutique qui vendent des accessoires décoratifs. Alors que ce soit pour faire toutes sortes, hein. Et donc du coup tu peux récupérer des trucs sympas. Ben, c'est là-bas donc dans une boutique comme ça que j'ai récupéré notamment des gros rouleaux d'une sorte de mousse herbe vachement épais que j'ai utilisé pour le petit chaperon rouge.
D'accord, les petits buissons là en sorte qui ressemblent à du lichen, c'est ça?
Ouais, il y a ça aussi, ouais. Après, mais pour faire l'herbe, je prends des rouleaux de mousse ou tu peux utiliser des tapis aussi pour bah pareil, toujours en modélisme, il y a des tapis d'herbe que tu déroules pour jouer dessus. Et là, ça, pareil, je prends, tu découpes, et tu peux t'en servir soit directement ou soit comme sous-couche. Parce que, par exemple, pour le petit chaperon rouge, généralement, avant de poser si j'utilise une sorte de tapis, des trucs en rouleau, je peins toujours en dessous en vert. Un vert foncé. Pour que après, une fois que c'est collé, si jamais il y a de la transparence quelque part, pour que ça choque pas, ce serait moche si en bas t'as du blanc ou un truc qui soit trop noir. Donc ça c'est le petit truc pour tricher.
Alors on parlait de place dans ton garage pour stocker tout plein de choses, enfin de matériel. Une question que je me posais, c'est super beau, un grand plateau du petit chaperon rouge, mais une fois que c'est fait, ça prend pas vachement de place pour le ranger.
Alors ouais, si ça prend de la place. Mais en fait, j'ai une grande cave, donc ça c'est bien pratique aussi. Mais même avec une grande cave, il y a toujours il arrive un moment où tu satures, t'as plus trop de place. Donc pour ça, dans la mesure du possible, alors là pareil, c'est toujours un choix qu'il faut que tu fasses quand tu crées ta table. Si tu gagnes en modularité et rangement, tu vas perdre un peu en immersion. Parce que quand quelque chose est figé dans un décor, tu peux faire, par exemple, je prends un exemple, tu as un bâtiment. Tu le poses, quand tu le prends et que tu le poses sur une table, ça fait moins réel que si le bâtiment est posé et que à la base du bâtiment, il y a du sable, de l'usure, des buissons, ce genre de choses. Hein. Ça fait plus réaliste, ça te met plus dans l'ambiance. Mais du coup, ton décor est fixe, ça prend plus de place. Donc il faut choisir entre est-ce que tu veux quelque chose qui fasse le plus réaliste possible ou est-ce que tu donnes la priorité à la modularité. Du coup, j'essaye de pas les faire trop hautes, les tables. Bon, pour une question de pratique, dans le petit chapeau, sur le petit chaperon rouge, tous les arbres sont collés.
D'accord.
Sur d'autres tables, comme celle que j'ai faite pour Mythic Battles, là c'est encore plus spécial parce que les arbres devaient être modulables. Mais on peut reprendre l'exemple. Donc en fait, je tige les arbres. Tu perces à la base de l'arbre, tu perces un trou.
Ouais.
Tu colles un demi cure-dent à l'intérieur. Et tu le plantes sur ta table en polystyrène. Donc le trou, l'emplacement, il va rester pour les parties d'après. Mais du coup, ton arbre, une fois que tu as fini de jouer, tu peux l'enlever et t'as quelque chose qui est plus facile à ranger. Donc il y a certains jeux, ouais, où par exemple pour Zombicide, où t'as des bâtiments, c'est en ville, t'as des immeubles. Ben là, les immeubles, il faut que tu puisses les Je les enlève à chaque fois parce que si t'as un truc figé, ça bouffe de la place. Et deux, si tu veux aller jouer chez des potes et qu'il faut que ça rentre dans la voiture pour le transport, c'est pas gagné, quoi.
Oui, parce que là justement, j'allais te demander la hauteur que ça pouvait faire parce que sur les photos que tu as mis sur Facebook, le bâtiment qui fait 3 étages, du coup forcément, ça doit prendre quelques centimètres de hauteur.
Ouais, on est à peu près à peu près 30 cm, dans les 30 cm de hauteur.
Donc plus les dalles, ouais, effectivement, faut un bon coffre.
Ouais. et donc du coup, voilà, j'ai les bâtiments sont dans un carton à part et la dalle elle est à part, donc du coup, c'est beaucoup plus modulable, tu peux le ranger plus facilement. Donc après en termes de rangement pour ceux qui ont pas beaucoup de place mais qui veulent quand même se faire un certain nombre de tables, il y a un truc tout con, hein, c'est bon, déjà tu t'arranges pour garder une limite max en hauteur, quitte à faire des éléments modulables pour les éléments les plus grands, et après pour le rangement, tu poses des rails avec des équerres, deux rails avec des équerres, tu te fais des étagères, et comme ça tu peux superposer sur un coin de mur, ça prend pas beaucoup de place et tu peux superposer facilement 5 6 tables de jeu.
Du coup, j'allais sauter un peu d'un coq à un âne, mais c'est pas grave. Je me posais la question, on voit petit à petit arriver dans les boîtes de jeu des éléments comme ça en 3D. On a vu le succès de Colt Express et même, tu vois, ne serait-ce que la petite horloge dans Mysterium ou des choses comme ça. On voit que les éditeurs, ils commencent aussi à se poser la question de qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que notre table elle ait de la gueule, quoi. Parce qu'on a vu, bon, les figurines, c'est sympa, maintenant tout le monde s'est habitué. Alors bon, bah, dans Conan, on a quoi? On a des méga figurines énormes. Et puis finalement, Colt Express, c'est des bêtes meeple en bois, par contre elles se traient en 3D. Et alors du coup, je voulais avoir un peu ton ressenti. Toi qui es joueur de figurines à la base, je peux me tromper, mais je me dis que joueur de figurines, il y a un aspect tactile vachement important. Et donc du coup, quel est ton ressenti par rapport à ça et par rapport à ce qui arrive en termes de matos dans les jeux ces derniers temps?
Ben, en termes de matos dans les jeux, je trouve que ça s'améliore et c'est très bien. On retrouve donc il y a tout, hein. Il y a du carton qu'on monte comme dans Colt Express pour le train. Après, t'as d'autres jeux qui te proposent des éléments en résine, en termes de décor, hein. Bon, après, on remarque aussi qu'il y a de plus en plus de jeux qui sont des mix entre le jeu de plateau et le jeu de figurines.
Ouais, justement, je pensais à Flix'em Up, qui est, enfin, où on a du, là, c'est plus en carton, enfin, c'est du balsa ou du bois, enfin, je sais pas exactement, et puis il y a les petits tonneaux, etc. Alors, je sais pas si c'est de la résine ou, je sais pas le matériel, mais du coup, où, effectivement, il y a des décors en 3D.
Après, oui, je pense que les éditeurs l'ont compris, hein. C'est une question d'immersion. C'est que ça. Après, ton jeu, s'il est très bon, c'est très bien, c'est parfait. Mais si après tu arrives à rajouter de l'immersion dedans en plus, bah, il en sera que mieux. Après, moi, je pousse mon vice à l'extrême, parce que la table de Colt Express, je l'ai déjà lorgné d'un peu plus près. Ce serait de faire, enfin, avec un vrai train, avec des vrais wagons, pour que ce soit encore plus bluffant, avec des figurines bien sûr, mais j'ai pas trouvé les éléments qui me convenaient, puisque il y a une contrainte pour Colt Express, c'est que tu dois pouvoir accéder à l'intérieur des wagons. Et après, hein, tout ce qui est en termes de modélisme, si tu veux, même ou de jouer, en train, t'as pas cet aspect-là. Donc c'est pour ça que j'ai laissé tomber sur ce jeu-là, parce que je voulais en faire une table 3D. Mais c'est très bien, hein, donc et je pense que ça va s'accentuer, parce que en termes de jeux plus récents, c'est par exemple Zombicide. Je reviens à Zombicide. Dans les dernières versions, ils avaient prévu des barricades en 3D. Il y a des portes en 3D. Donc, petit à petit, on voit comme ça apparaître dans les jeux des petits éléments 3D. On n'est pas à des tables complètes en 3D. Et je pense que ça n'arrivera pas tout simplement à cause du coût. Mais des petits éléments qui rendent le jeu plus vivant.
Ouais. Et alors du coup, deuxième réaction, je ressorte de l'âne au coq. Il y a une espèce de préjugé qu'on essaye de casser depuis 3 saisons avec Alexis, qui concerne le do it yourself, et en particulier les jeux à faire soi-même. C'est la difficulté, la complexité. Et finalement, il y a un deuxième préjugé qu'on n'a jamais vraiment abordé, mais qu'on aborde là sous un autre angle. C'est souvent les gens, ils vont penser, ben, un jeu édité, c'est plus joli qu'un jeu que tu as fait à la maison. Et bah, je veux dire, globalement, on essaye de faire toujours un matos de bonne qualité, on fait des choses sympas, des plateaux de jeu qui sont jolis, etc. Et puis toi, tu viens nous montrer que finalement, c'est le contraire, c'est-à-dire que un jeu qui est édité, il est limité par des contraintes industrielles. Alors en effet, ils peuvent avoir des impressions de très bonne qualité s'ils le veulent. Et donc pour tout ce qui est carton, papier, on va dire qu'on pourra jamais faire mieux à la maison. Par contre, les contraintes industrielles font que, bah, finalement, ils sont assez limités justement dans leur choix de matériaux et de techniques de fabrication. Alors que dans ce que tu fais à la maison, bah, ta seule limite, c'est finalement ton imagination, quoi. Donc ça, c'est un deuxième préjugé qu'on peut casser. Alors en effet, le jeu à faire soi-même à la maison, ça peut être compliqué comme ça peut être simple. Ça peut être laid comme ça peut être beau. Finalement, ça dépend de ton objectif, ça dépend du temps que tu as envie d'y consacrer. C'est clair et net que, enfin, tu vas me dire si je dis une connerie, mais à mon avis, tu fais pas ça pour le résultat. Enfin, je veux dire, tu fais pas un plateau de Zombicide pour avoir un plateau de Zombicide pour pouvoir jouer à Zombicide, parce que tu peux jouer à Zombicide avec le plateau qu'il y a dans la boîte de base. Par contre, tu fais ça, bon, déjà pour améliorer l'immersion, c'est ce que tu nous as dit, mais aussi parce que l'activité créatrice en soi, elle te plaît.
Totalement.
Voilà.
Voilà, c'est ça. En fait, comme certains vont jouer au golf ou font du vélo, moi, c'est ma passion, c'est ça. Donc, du coup, moi, je prends plaisir à faire ça. Le truc, par exemple, c'est que je pourrais pas faire une même table en série. Parce que une fois que je l'ai faite, voilà, moi, sur chaque table, il y a un challenge. Il y a des trucs que j'ai pas fait. Il y a des trucs complexes. Il y a des difficultés qu'il faut surmonter. Et ça, cette partie-là me plaît aussi. Et donc, du coup, une fois que j'ai passé cette étape-là, que j'ai réussi à trouver comment le faire, bah, je passe à la table suivante. Voilà, j'aurai moins de plaisir à faire trois quatre fois la même table. Et donc du coup, bon après vu le temps que ça prend, voilà, ça me limiterait aussi. Mais le truc, ouais, c'est que hein, il faut se faire plaisir, il faut prendre du plaisir à le faire. Et après, ouais, t'es pas obligé d'avoir un résultat hyper pro pour un te satisfaire et satisfaire tes joueurs. Et deux, pour que en fait en termes d'immersion, ça le fasse très bien. Parce que après, il faut garder à l'esprit que sur des tables comme ça, mis à part le premier effet qui se coule, c'est quand tu vois le truc, tu fais waouh, trop de la bombe ça. Et tu regardes dans tous les petits recoins, les petits détails, tu regardes de près. Ça c'est la première fois. Après, quand tu vas jouer, tu t'arrêtes plus sur tous les petits détails, les petits accessoires que tu poses, ça passe en second plan. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont pas obligatoirement nécessaires. Tu peux faire sans et t'amuser autant. Après, pour rebondir sur faire mieux que les jeux édités, il y a des gens qui auront pas le temps, ou qui voudront pas se prendre le temps, ou pour X raisons ne feront jamais ce genre de choses, mais à qui ça peut plaire. Et donc du coup, je pense que sur pas mal de jeux, vu les techniques, l'amélioration au niveau des techniques de fabrication ou des matériaux utilisés, il y a des belles choses à faire. Il y a des belles choses à faire. Bien sûr, pas sans conséquences en termes de coûts. Mais il y a pas mal de possibilités. Que ce soit proposé via des sortes d'extensions, des versions 3D, d'éléments de jeu. Il y a pas mal de gens qui sont prêts à mettre un peu plus d'argent pour avoir justement une partie 3D, quelque chose qui claque bien sur ce type de jeu là.
C'est vrai. On le voit avec les aventuriers du rail de luxe par exemple, avec tous les petits wagons déjà en taille surdimensionnée, puis chaque wagon multicouleur avec un look différent. Et puis on a vu passer des rééditions de jeux avec des pyramides en pierre, des choses comme ça. C'est vrai que je pense que les éditeurs en sont conscients. Il y a un public. C'est pas Monsieur Tout le Monde, mais il y a un public pour le jeu. Voilà, la version de luxe. Comme il y a un public pour les beaux jeux d'échecs, par exemple. C'est finalement, ça va dans le même état d'esprit. C'est que tu peux très bien jouer aux échecs avec les pions classiques en bois. Et puis il y a des gens qui aiment avoir des beaux jeux d'échecs avec des pierres sculptées, etc. Ben, finalement, dans le jeu de société, c'est pareil. Après, la difficulté pour les éditeurs, ça va être de trouver le juste milieu, prix, marché, adéquation, etc. Bon, à la limite, c'est leur métier, quoi.
Alors moi, justement, je pense que ça passera jamais au niveau des éditeurs. Je pense qu'il y a un vrai marché, mais qui est vraiment... Enfin, déjà, le jeu de société, ça reste quand même encore aujourd'hui un marché de niche, même s'il commence vraiment à être beaucoup plus grand public. Et justement, là, avec l'As d'Or, on est vraiment dans, en termes d'actualité, dans le jeu. Poussons-le pour qu'il soit grand public. Les tables en 3D où je pensais aux figurines de Obold par exemple, qui fait des figurines en pâte Fimo pour tous les jeux, c'est des choses qui sont magnifiques mais qui sont dans des ordres de grandeur de budget qui les restreignent sur vraiment du marché de niche. Enfin là justement, je suis sur son site pour essayer de voir le prix d'un set d'un jeu, mais enfin, il me semble que c'est vraiment c'est vraiment beaucoup. Une table Enfin, une table 3D, c'est pareil. Enfin, je veux dire, même en vendant une table au prix du SMIC horaire, si t'as passé 20 heures sur une table, et 20 heures, ce sera une des plus petites tables 3D que t'auras faites, déjà, on est à 200 euros. Donc, on est dans des budgets où, enfin, moi, je préfère, enfin, je commence à mettre de plus en plus d'argent sur de moins en moins de jeux pour avoir des jeux plus sympas, d'acheter des petits cœurs avec des super dessins en boutons pour jouer avec mon love letter, etc. Bon, je suis pas encore à mettre 200 euros dans un jeu juste pour le rendre plus séduisant, même si effectivement quand on passe à Essen devant les tables de Conan, on a envie de s'arrêter et de se dire ah bah tiens, je vais passer 1 heure pour jouer parce que c'est super sympathique. Mais je pense que c'est un marché de niche qui est vraiment très 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 petit.
En effet, ça va dans le sens de ce que tu dis. Obold, typiquement, Agricola, juste les pions personnages, si tu veux les 5 familles, c'est 65 euros. Juste les animaux, c'est 120 euros. Donc, si tu veux te faire le Agricola Obold complet, en fait, t'en as plus pour 300 euros. Donc, clairement, ça va dans le sens de ce que tu dis. Ceci dit, je pense qu'il y a des gens qui jouent suffisamment à Agricola pour aller mettre 300 euros dans un Agricola. Mais en effet, c'est pas Monsieur Tout le Monde, ça je suis d'accord avec toi. Mais je pense que avec le fleurissement des trucs comme Etsy ou des choses comme ça, donc des gens qui sont amenés à finalement à se dire, mais attends, ce que je fais pour mon loisir, quoi, le bricolage, le loisir créatif au sens large. Moi, je le fais parce que ça m'amuse de le faire, mais il y a des gens qui sont demandeurs de cette compétence-là et qui sont prêts à payer mon travail de créateur. Après, c'est évident que s'il n'y avait pas Internet, c'est pas le voisin au coin de la rue qui va t'acheter ton truc, sauf cas exceptionnel. Mais finalement, à partir du moment où tu as accès à une clientèle potentielle aussi vaste que celle que peut t'apporter Internet, il y a moyen. Et du coup, tu disais les éditeurs non. Je pense que enfin,
Alors,
peut-être pas jusqu'à ce niveau-là,
je pense
mais
que les éditeurs sont juste plus dans le. Je pense que d'ailleurs sont le même meilleur public acheteur. Enfin, par exemple pour Conan, c'est par là que j'avais entendu parler de toi, Eric. C'est des tables que tu. Enfin, je sais, tu les as vendues à Conan. Enfin,
Ouais.
à Monolith.
Alors du coup, en fait, la vraie histoire, c'est qu'en fait, ce sont des tables que je me suis fait pour moi, pour jouer. Mon but, c'était, je m'étais dit, ben voilà, quand le jeu sortira, je veux une table 3D pour chaque plateau de jeu. C'était ça mon objectif. Et le hasard des choses a fait que, effectivement, Monolith est tombé sur mon boulot, et ils m'ont demandé, voilà, si éventuellement j'étais prêt à leur vendre ces deux tables-là. Et donc du coup, oui, je leur ai répondu oui, il n'y a pas de problème.
Et du coup, tu les as plus
Mais
pour toi.
bah oui, non, je les ai plus pour moi. Ouais. Oui, en termes, je vais revenir en termes, ouais, pour les éditeurs et tout. Il y a plusieurs choses là qui étaient intéressantes dans ce que vous avez dit, c'est que ouais, en fait, avec tous les jeux qui sortent, il y a tellement, tellement, tellement de jeux qui sortent tous les ans, tous les mois. Les gens, enfin certains publics vont peut-être, ils se disent voilà, j'ai pas des, mes heures de loisirs sont pas extensibles, donc je vais faire des choix en thème de jeux. Justement, quitte à mettre un peu plus d'argent pour les rendre plus agréables, plus vivants ou ce genre de choses, parce que de toute façon, je vais pas pouvoir jouer à tout ce que j'ai. Donc, ils sont prêts à mettre un peu plus d'argent. Après, je pense qu'il n'y a pas de réflexe non plus pour les éditeurs pour chercher à démocratiser plus cette partie 3D. Après, je sais pas en termes de s'il y aurait une réelle demande derrière, mais je pense que s'il y avait une réflexion qui était faite, tu sais, pour avoir plus un process industriel pour ce genre de produit, il y a des choses qui seraient, il y a des choses qui seraient, il y a des choses qui seraient faisables.
Mais il y a des choses intermédiaires entre vraiment le gros 3D ou le Hubble, où c'est vraiment du fait main. Il y a par exemple tout ce qui est Twimple. Alors après, c'est pas aussi sexy que les figurines d'Hubble. Enfin, on n'est pas au même niveau. Après, on n'est pas du tout non plus au même prix. Donc, je sais que par exemple, c'est une boîte qui me semble, semble marcher, puisque à chaque fois qu'il y a des nouveaux jeux, ils sortent de nouveaux Twimple et customisés pour différents jeux. Donc, je pense qu'il y a différents marchés. Celui-là, a priori, est un petit peu plus, un peu plus professionnel, pas en termes de qualité, mais en termes d'industrialisation, justement. Parce que c'est pas un passionné qui a sa boutique sur Etsy comme Hobold, enfin d'ailleurs je sais pas s'il est sur Etsy, mais enfin dans ce type-là, où toi qui vas vendre à un éditeur une ou deux tables comme ça, mais où là c'est beaucoup plus, enfin il y a une vraie vitrine beaucoup plus professionnelle d'un point de vue administratif et processus de réalisation.
Oui, ouais, faut trouver, c'est comme pour tout, faut trouver le, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver entre le truc tip top, le meeple de base, entre les deux, il y a encore une bonne marge de manœuvre, et justement, je pense que c'est là-dedans qu'il y a des choses à faire. Que les gens ils seraient prêts plutôt que de devoir écumer le net à la recherche de boîtes ou de privés qui peuvent te permettre d'avoir ce que tu recherches pour tel et tel jeu, de devoir gratter à gauche à droite, voilà, pouvoir proposer directement aux gens des éléments pour leur jeu. Enfin après ça c'est mon avis, hein. J'ai pas fait d'études de marché là-dessus ou des trucs dans le style, hein. Mais je pense que ouais, y a quelque chose à faire.
Et alors du coup ton actualité, parce que du coup Conan ça s'est terminé, du coup j'imagine c'est les premières tables que t'as vendues, est-ce que ça t'a donné envie de continuer à essayer d'en faire éventuellement d'en vendre, ou vraiment tu restes sur tu vas en faire pour toi d'abord et puis tu verras comment ça se passera, ou est-ce que t'as des gros projets en cours, tout ça?
Donc en fait ouais, je cherche pas particulièrement à vendre, donc parce que comme dit, ouais, faut que je prenne plaisir à le faire. Le seul truc qu'il y a, ouais, c'est la j'ai fait alors là c'était une vraie commande, on va dire que c'était ma première vraie commande, c'est pour Mythic Battles. Donc ça c'est une table qui a été commandée exprès pour le jeu. Donc en fait ça a été ma vraie première commande. La table du Petit Chaperon Rouge par exemple, je l'ai faite comme ça et je l'ai prêtée à Benoît Forger pour Cannes. Et après donc du coup moi faut que je m'occupe. En fait c'est à peu près ça. Donc je fais soit un peu de peinture ou j'ai en cours une table type dock portuaire pour Batman Miniature Games. Mais là pareil c'est pour moi, c'est un challenge que je me suis lancé de faire un truc dans ce style-là, mais en grand. Et j'aimerais aussi faire des gros immeubles, parce que souvent dans les jeux, quand on regarde les immeubles sont pas à l'échelle, ils sont tout riquiqui par rapport au bonhomme. Et ouais, j'aimerais bien faire une table avec un gros truc. C'est pour ça l'univers de Batman s'y prête bien, quoi, avec des gros immeubles à étages, avec des terrasses. Voilà, donc ça c'est dans les idées que j'ai en cours pour le moment.
Enfin d'ailleurs c'est déjà bien avancé, parce que je vois qu'il y a des photos. Enfin c'est pas juste une idée, c'est il y a déjà du travail d'effectuer, parce que ça en fait des briques à découper au stylo.
ouais, c'est vrai. Mais là j'ai fait une petite pause et j'ai découvert bon, c'est un petit aparté, mais j'ai découvert un post sur Trick Track sur la peinture monochrome. En fait, j'ai des tonnes et des tonnes de figurines pour Zombicide à peindre. Et je me suis fait une boîte en peinture classique. Et quand j'ai vu le résultat que donnait du monochrome, donc juste en plusieurs couches de gris de plus en plus clair, uniquement sur ce type de jeu-là, je parle bien sur Zombicide, ça rend super bien sur une masse. Et donc du coup là, j'ai décidé, je me suis lancé, je fais toutes mes 200 ou 300 et quelques pièces comme ça. Et là, j'arrive bientôt au bout.
Oui, parce que ça en prend du temps de peindre les figurines. Moi, Conan, j'avais failli craquer, mais les figurines n'étaient pas peintes. Et le problème, c'est qu'à chaque fois que je vois une figurine, je me dis, ah, c'est tellement magnifique, si c'était peint, ce serait tellement merveilleux. Et je sais que jamais je ne ferai de peinture, parce que je sais pas, et puis il faut tellement de temps. J'ai un olifant du Seigneur des Anneaux qui fait 30 cm de haut, que je vais donner un jour, parce que je ne le peindrai jamais, parce qu'il faut 30 heures de peinture pour arriver à faire un truc potable. Et non, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, et c'est bien quand il y a des techniques qui permettent un petit peu de gagner du temps, parce que 200 zombies à peindre, effectivement, c'est...
Voilà. Et là pareil, un truc, une réflexion que je me suis faite là, justement, en termes de peinture pour les jeux de plateau avec figurines. Ça reste du plastique gris ou du plastique rouge. Les gens qui sont pas habitués à peindre sont découragés par les quantités qu'il y a. Ceux qui sont habitués à peindre, ça ne les arrêtera pas. Et en fait, il y a pareil, un juste milieu que j'ai trouvé dans Kemet de chez Matagot. Ouais. En fait, là, les figurines, c'est un plastique, on va dire beige, brun comme ça, et ils ont mis un lavis. Un lavis plus sombre, ce qui fait que ce lavis se pose dans les creux et les reliefs sortent beaucoup mieux. C'est une opération toute simple qui demande pas particulièrement de technicité et ça rend les figurines beaucoup plus lisibles et je trouve que c'est un bon compromis entre la figurine peinte et la figurine en plastique gris que t'as dans ta boîte.
Et ça avait été fait, tu parles de la version éditée ou tu as vu des gens faire ça?
Non, la version éditée.
La version éditée, d'accord.
Ouais, je suis en train d'aller voir la fiche board Game Geek, parce que oui, effectivement, de souvenir, c'était très beau, mais bon, comme je connais bien Matago, après on dit que c'est parce que je les aime bien que je dis toujours du bien d'eux.
Ouais, je suis en train de voir les photos, en effet, c'est vrai qu'elles ont un petit truc, ouais, je vois ce que tu veux dire. Un petit truc en plus, ouais, ces figurines-là. Je suis d'accord.
Voilà. Et c'est pas grand-chose, mais du coup, ouais, elles ont quand même plus la classe. C'est à côté, tu poses une pièce toute grise ou toute marron, voilà, ça se démarque tout de suite. C'est plus joli. Et puis après, les gars qui vont peindre, ils s'en fichent.
Oui, ils repassent par-dessus, ça change rien pour eux. Ouais.
Voilà, c'est exactement ça. Et les gens qui ont pas envie ou qui peuvent pas ou qui savent pas, ben c'est un petit plus qui fait plus joli.
Je pense que là on va arriver sur la fin parce que je pense qu'on a fait un bon tour de tout ce que t'as fait. Enfin, en tout cas en repassant sur les publications sur ton groupe, on a parlé un petit peu de toutes les tables que t'avais faites, un petit peu la technique sans rentrer trop dans les détails pour pas perdre tout le monde et en même temps en donnant assez de techniques pour donner une idée.
Justement pour revenir, pour conclure aussi peut-être, pour les gens qui voudraient avoir des idées plus précises de comment faire quoi, il y a une vidéo sur Trick Track qui a été tournée où justement il y a Guillaume Shifumi qui a la manœuvre et donc du coup il fabrique lui-même, sans préparation, tout simplement un petit meuble en 3D. C'est une vidéo qui dure une vingtaine de minutes. Et donc du coup, c'était pour prouver aussi que voilà, avec très peu de matériel et aucune connaissance, on peut faire des trucs vraiment sympas.
Cool, merci.
Voilà.
Et du coup, si je pense à quelque chose, si tu as pas spécialement envie de vendre des tables parce que bah t'as aussi envie de les faire pour toi, etc. Il y a un truc qui se fait de plus en plus, en tout cas pour tout ce qui est peinture de figurines, c'est des gens qui proposent de faire des cours, enfin qui disent bah enfin ce que tu as fait en fait avec Guillaume d'anciennement Philosophia, de dire bah voilà, en une heure je vous apprends à faire des murs en polystyrène ou des murs en balsa ou du parquet en balsa, etc. Et ça peut être si t'aimes partager tout ça, ça peut être une idée qui te permet de garder toutes tes tables pour pouvoir quand même continuer à y jouer. Non mais je comprends. Enfin, je pense que ça a dû être un déchirement de te séparer tes deux tables de Conan sur lesquelles t'as quand même dû passer un certain nombre d'heures de travail.
En fait, non.
Non.
Alors, moi, non, même pas. Parce qu'en fait, du coup, quand s'est posé la question, je me suis dit, en termes d'heures de jeu dessus, chez moi, ces tables, elles étaient à la cave. Avec tous les scénars qu'il va y avoir sur le jeu, je vais pas les sortir régulièrement. Du coup, je préfère que ces tables soient utilisées, qu'il y ait plein de monde qui joue dessus, plutôt que de les voir prendre la poussière en bas chez moi à la cave. Et si vraiment ça me démange de trop, si elle me manque de trop, je m'en refais une.
Et ben tant mieux, parce que moi je suis trop attaché généralement à ce que je fais pour arriver à m'en séparer.
Ah, c'est vrai que c'est rigolo, moi j'ai un peu la même réaction que Eric.
Oui, toi tu donnes des print and play.
Ouais, je
le garde.
J'ai pris du plaisir à le faire. Si je vois que la personne elle aime le jeu et puis qu'elle a trouvé que la réalisation lui convenait, garde-le. Au pire, je me le referai si j'en ai besoin. Ou pas, parce que de toute façon, j'en fais tellement que je joue pas avec que j'en ferai d'autres et puis voilà. Donc finalement, c'est un peu comme si tu as beaucoup de légumes dans ton jardin, tu vas pas tout manger. Ça te gêne pas d'en donner à tes voisins, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu le même état d'esprit, sauf que moi c'est plus en effet sur l'aspect quantité, parce que je fabrique beaucoup de choses. Eric lui c'est plutôt sur le fait que c'est dommage un bel objet comme ça de se dire qu'il sera pas joué. Mais en fait ça revient même, c'est-à-dire que tu préfères un objet qui a entre guillemets un but dans sa vie, même si c'est un peu naïf de dire ça comme ça, mais
non, mais c'est
la poussière, quoi.
C'est exactement ça, quoi. Enfin, la démarche, c'est de monter quelque chose en 3D pour donner plus de vie, plus d'immersion au plateau. Si c'est après pour le laisser pourrir dans une cave, c'est pas le but. Hein. Faut que ça serve et qu'il y ait un maximum de gens qui prennent plaisir à jouer dessus. C'est ça le but, en fait. C'est pour ça que je fais ça. Donc du coup, j'ai le plaisir de le fabriquer, et après c'est le plaisir de voir les gens jouer dessus. Donc je préfère effectivement que ce soit utilisé par un maximum de monde plutôt que une fois tous les 6 mois avec mon groupe de joueurs.
Ouais.
Non mais je vous rassure, je me soigne, j'ai réussi à vendre mon premier jeu et c'était hier.
Ah.
Oui.
Bon, c'est bien, c'est une belle conclusion, ça, de plaisir à fabriquer, plaisir à partager. Je propose qu'on s'arrête là-dessus, sauf si vous avez une dernière question.
Je pense qu'on a fait le tour de un petit peu tous tes projets, et puis comme ça donnera l'occasion aux gens de venir te parler s'ils ont des questions, de venir voir ta page Facebook. Donc je rappelle, c'est Budalas Work, donc BUDALA'S Work, et du coup vous verrez un petit peu tout ce qu'Eric a déjà fait, les projets en cours, tout ça, et puis ça vous donnera peut-être la motivation d'essayer de vous lancer à faire tout ça. Bon, après, après c'est vrai que c'est beaucoup de temps, et mais bon, les résultats sont impressionnants, donc enfin moi je suis toujours épaté, j'ai toujours envie, mais bon, après faut avoir le temps de finir les choses qu'on fait. Donc du coup ouais, je pense qu'on va terminer là. Bah merci à toi d'avoir passé tout ce temps à nous expliquer, d'avoir passé tout ce temps dont les gens ignorent à attendre qu'on arrive à paramétrer les micros et les logiciels. voilà. Oui non, parce que ce soir, comme ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enregistré, on a mis plus d'une heure avant d'arriver à pouvoir enregistrer. Et malheureusement, on enregistre via Skype, donc la qualité sera pas celle à laquelle on a pu vous habituer jusque là. Mais en même temps, le contenu étant intéressant, vous arriverez à supporter la qualité. Voilà. Merci encore, Eric.
Merci à vous pour l'invitation.
Et puis, maintenant que vous savez quoi faire de vos dix doigts,
jouez bien.
Au même moment, dans la maison de Dédé Schutz. Diantre, il faut vite que je range ma ludothèque, sinon l'inspection anale va être douloureuse. Ciel, je suis Marie. Déjà, et pas d'armoire où cacher mes jeux dérangés. Et là, qui va là?
Inspecteur 37.
Et là, qui va là? Et là, ça va pas.
Bureau de vérification des jeux. Ouvrez.
J'arrive. Entrez, voyez comme ma ludothèque est bien rangée.
Chaque chose en son temps. D'abord, pouvez-vous me présenter votre boîte de 6 qui prend, s'il vous plaît?
Oui, elle doit être ici, un petit instant.
Je rappelle que le 6 qui prend est obligatoire dans chaque domicile.
Oui, voilà, il est là.
Bien. Voyons ça, boîte métal usée, les cartes sont cornées, c'est bien, vous y avez joué. Voyons maintenant, pouvez-vous me passer la boîte de Takenoko qui, je vois là?
Oui, bien sûr, la voilà.
Ouvrons voir le thermoformage. Mais, qu'est-il arrivé au thermoformage?
Je l'ai jeté, c'est vraiment pas pratique ces trucs-là.
Parfeld. Détérioration de matériel de jeu. Ça vaut une amende de 3 fois 1 des 20 euros.
Mais comprenez-moi, tout le matériel se déverse et se mélange quand je les range sur la tranche.
UV Rosenberg nous garde tous. Parce qu'en plus, vous les rangez sur la tranche. Amende.
Je vais bientôt pouvoir faire un gâteau, avec toutes ces amendes.
Vous faites des jeux de mots durant une inspection. Vous savez ce que ça veut dire?
Amende?
Et comment amende?
Heureusement que je suis une bonne pâte.
Hein? De quoi?
Une pâte d'amende.
Désespérant. On frôle la maladie psychiatrique. Je vous l'accorde parce que je sais reconnaître un jeu de mots de bon goût, surtout culinaire. Vous voyez, on a de l'humour, nous aussi. On n'est pas des robots ou des tableurs Excel. Bon, montrez-moi votre liste de jeux. J'espère qu'elle est aussi bien fournie que la liste du top 500 BGG de Père Castor.
Salut les joueuses, salut les joueurs. Aujourd'hui, je vous propose un petit bond vers l'avenir, précisément en l'an 2212. À l'approche du 200e anniversaire de la signature des accords de la COP21, l'humanité a presque épuisé la totalité des ressources de la Terre et a enfin intégré le maintien du fragile équilibre entre production et consommation pour le développement urbain. Nous sommes dans la ville de Ginkopolis, qui est pionnière en la matière de développement urbain, en équilibre et en harmonie avec la nature. Et son emblème est le Ginkgo Biloba, l'arbre centenaire. Le jeu nous plonge dans un thème futuriste, progressiste, optimiste et un poil écolo. Pour une fois, nous sommes loin des thèmes futuristes post-apocalyptiques où l'humanité doit survivre dans des superstructures à la fois sombres où prolifèrent vermine, maladie et perfidie. Ginkopolis est un jeu de Xavier Georges, édité par Pearl Games, et il est sorti en 2012. Le jeu est jouable de 1 à 5 joueurs pour une durée de partie d'environ 45 minutes. Le jeu pointe actuellement à la 262e place au classement BGG. le jeu nous plonge dans la peau d'un architecte qui doit développer et urbaniser la nouvelle ville de Jinkopolis. L'urbaniste qui aura amassé le plus de points de réussite en fin de partie sera déclaré vainqueur. Dans la ville de Jinkopolis, il existe trois familles de bâtiments. Les bâtiments de production de couleur rouge produiront des ressources. Les bâtiments de recherche de couleur bleue généreront des tuiles bâtiments, qui sont des projets à construire, et les bâtiments de vie de couleur jaune génèrent des points de réussite. Il existe 28 bâtiments dans chacune de ces trois catégories. Chaque tuile bâtiment est unique et porte un numéro allant de 1 à 20. La ville de départ est composée des trois premières tuiles bâtiments, numérotées de 1 à 3, de chaque catégorie. Elles sont disposées en carré. Les autres tuiles bâtiments forment une pioche cachée. La ville est entourée par 12 jetons de terrain vague représentant la campagne qui sont urbanisables. Ils portent une lettre de A à L. Chaque tuile bâtiment et chaque jeton urbanisation est associé à une carte. Dans la pioche de cartes de départ, on retrouve donc les 9 cartes bâtiments, numérotées de 1 à 3, et les cartes associées aux jetons de terrain vague de A à L. Pour l'aider dans son projet, chaque joueur démarre la partie à la tête d'une équipe de 3 personnages. Ce sont soit des bio-urbanistes, soit des biotechniciens, soit des bio-ingénieurs. Ces cartes personnages ont 2 fonctions. Elles définissent les conditions de démarrage de chaque joueur, nombre de ressources, nombre de points de réussite et nombre de tuiles bâtiments qui seront cachées derrière leur paravent. Les cartes contiennent également le bonus gagné lié aux actions du joueur. Au début d'un tour de jeu, chaque joueur reçoit 4 cartes depuis la pioche. Tous les joueurs vont ensuite choisir en même temps et secrètement une action parmi les 3 suivantes. Les actions seront résolues les unes après les autres. La première action disponible est l'exploitation soit d'un bâtiment, soit d'un terrain vague. C'est l'action de jouer une carte seule. Si c'est une carte bâtiment, le joueur reçoit soit des ressources si c'est un bâtiment de production, soit des tuiles si c'est un bâtiment de recherche, soit des points de réussite si c'est un bâtiment de vie. Le nombre de ressources, tuiles ou points de réussite récupérés dépend de la hauteur du bâtiment. Si c'est une carte de terrain vague, le joueur reçoit soit une ressource, soit une tuile. La deuxième action disponible est l'action d'urbanisation. C'est l'action de construire un bâtiment sur un terrain vague, en étendant la ville. Il faut jouer une des cartes de terrain vague et une tuile de derrière son paravent. Le bâtiment est alors construit à la place du jeton de terrain vague que l'on va déplacer à côté du nouveau bâtiment. Une ressource de joueur depuis l'arrière de son paravent doit être placée sur la tuile bâtiment. En complément, le joueur bénéficie de l'exploitation du ou des bâtiments adjacents. La dernière action disponible est la construction en hauteur. C'est l'action de développer un bâtiment existant en construisant une nouvelle tuile au-dessus de celui-ci. Il faut jouer une carte bâtiment, qui sera le bâtiment recouvert, et une tuile de derrière son paravent. Il faut également placer un nombre de ressources sur la tuile équivalent à la hauteur du bâtiment. La hauteur du bâtiment correspond au nombre de tuiles empilées. Il est possible de construire sur des bâtiments n'appartenant encore à personne, soit sur ses propres bâtiments, soit sur les bâtiments des autres joueurs. Dans ce cas, le joueur adverse va récupérer les ressources de son ancien bâtiment, plus un point de réussite par ressource récupérée. Dans l'idéal, on construit les bâtiments avec les numéros dans l'ordre croissant. Si jamais on place un bâtiment avec un numéro inférieur sur un bâtiment existant, il va falloir payer la différence en points de victoire. On peut également construire avec un bâtiment d'une autre couleur au prix d'une ressource supplémentaire qui sera remise à la réserve. Cette action permet de conserver la carte du bâtiment que l'on a recouvert et de profiter de son effet soit lors d'une prochaine action, comme le bonus des personnages de départ, soit pour le décompte de fin de partie. Un jeton chantier est placé sur les nouveaux bâtiments construits, afin de nous rappeler qu'il faudra rajouter les cartes au moment de reconstituer la pioche. Dès que toutes les actions sont résolues, on passe les 3 cartes restantes à notre voisin de gauche et chaque joueur repioche une carte. Si jamais il n'y a plus assez de cartes dans la pioche, on reconstitue la pioche, en rajoutant les nouveaux bâtiments qui ont été construits. Si jamais un joueur n'est pas satisfait de sa main de 4 cartes, il a la possibilité, 2 fois pendant la partie, de piocher 4 nouvelles cartes, en dépensant un jeton. Ces 2 jetons valent néanmoins 4 points de victoire en fin de partie s'il ne les a pas utilisés. On enchaîne les tours de jeu jusqu'à ce que l'on ait épuisé pour la première fois la réserve de tuiles. Chaque joueur peut alors remettre en jeu un nombre de tuiles depuis derrière son paravent pour gagner 1 point de victoire par tuile. Les tours de jeu reprennent et la partie s'arrête lorsque la réserve sera épuisée pour la deuxième fois. Pour le décompte final des points, on additionne les points gagnés en cours de partie via les actions, les points sur les cartes de bâtiments sur lesquelles on a construit, et également, on compte les majorités présentes en ville. Dès que 2 tuiles de la même couleur sont voisines, elles forment un quartier. le joueur majoritaire dans le quartier va gagner un nombre de points de réussite égal au nombre total de ressources présentes. Le deuxième joueur présent gagne un nombre de points de réussite égal au nombre des ressources de sa couleur. Si jamais un joueur est seul dans un quartier, il score sur les deux tableaux. J'apprécie le jeu pour sa fluidité, du fait que les joueurs choisissent leur action en même temps, et j'aime également les effets combos où on va chercher l'action la plus rentable. On n'a jamais l'impression de jouer un coup pour rien, car on a toujours un petit quelque chose à gagner lors d'une action. On a également de l'interaction avec les autres joueurs, on va pouvoir gêner le développement des adversaires dans la prise des majorités des quartiers. Concernant le matériel, la boîte est bien remplie, et l'épaisseur des tuiles est digne d'une édition de luxe. Cela permet de distinguer très facilement la construction en hauteur dans la ville. Les graphismes sont également très beaux et colorés. On peut voir l'évolution des bâtiments entre les numéros 1 à 20 avec un petit détail qui va venir se rajouter à chaque incrémentation. Pour conclure, n'hésitez pas à essayer Jinkopolis si vous en avez l'occasion, et d'ici là, jouez bien.
Jinkopolis, c'est un bon jeu ça. Et je dis pas ça parce que vous êtes de la Ludopolis.
Il ne faudrait pas en rajouter trop sous peine de tentative de corruption.
Oh, tout le monde vous dira que je suis pas ce genre-là.
Vos voisins peuvent attester que vous n'êtes pas un mauvais perdant.
Bah, tout le monde sait que je suis pas un bon perdant. Même mon dentiste.
Ou votre dentiste.
Oui, je perds mes dents avec le sourire.
Je vais vous hésiter de vous laisser vous enliser dans vos jeux de mots, et nous allons écouter l'enquête de voisinage de Père Castor, qui était au Ludofolie à Grèce-Villers.
Vous écoutez un reportage de Proxyjeux.
Salut les joueuses et salut les joueurs, je suis Père Castor pour Proxyjeux, et comme dans Proxyjeux il y a proximité, je me suis rendu à quelques lieux de Strasbourg, plus précisément dans le village de Grèce-Villers, où se déroule un événement ludique. Je suis avec Maëva et Maxime, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Maxime, qui es-tu ?
Alors, Maxime Vauclon, donc je suis président de l'association Rire des Jeux à Mutzig, donc une association qui a été créée il y a 2 ans dans l'objectif d'organiser des soirées jeux et des animations autour du jeu de société, autour de la ville de Mutzig. Donc, on est une association d'un peu plus de 100 membres avec des enfants, des adultes. On se réunit une fois par semaine pour des soirées jeux, plutôt pour les adultes, et une fois par mois, on organise une soirée spécifique pour les enfants.
D'accord. C'est quel jour de la semaine ?
Le vendredi, donc tous les vendredis à Mutzig, donc pour le moment à l'école Chiquelot.
D'accord.
Qui est au centre de la ville.
Vous avez votre propre ludothèque, ou alors, c'est chacun des membres qui amène ses découvertes et,
Alors, il y a un peu les deux. Donc, on a une ludothèque qui est disponible pour tous les membres de l'association et qui peut être utilisée aussi pour les soirées jeux. Donc, on fait aussi du prêt pour tous les membres.
D'accord.
Et puis, autrement, bon, les membres, la plupart aussi, aiment bien ramener leurs dernières nouveautés sur les soirées jeux. Donc, on en teste régulièrement des nouveaux.
Et donc, c'est une association pour tout public de joueurs.
Tout public, les adultes, les enfants. Donc, on organise également des animations à la médiathèque. On organise également des soirées au Café Tour ou soirées jeux, bar et jeux, au bar Notre Idée Fixe à Molsheim, une fois par mois.
Vous participez également à d'autres festivals, peut-être ailleurs en France ou peut-être Essen.
Alors on est 7 personnes de l'association est partie cette année à Essen pour aller découvrir. Pour la plupart, bon, il y en a quelques-uns qui connaissaient déjà. Et donc oui, on a découvert Essen cette année.
Et vous faites aussi des événements à l'extérieur de l'association.
Alors on avait participé co-organisateur à Taverne des Jeux, on avait participé au Bretzel et des Jeux sur Strasbourg qui était organisé en lien par la boutique Philibert de Strasbourg.
Et vous avez aussi fait, vous organisez un week-end
Alors on organise aussi une fois par an un week-end randonnée et jeux de société sur 3 jours par une 60aine de personnes. L'année dernière on était 60aine de personnes à partir dans les Vosges ou en Forêt-Noire pour passer un week-end complet de jeux de société, puis un petit peu de rando pour prendre l'air entre quelques parties.
Ok. Et une petite question, quel est le jeu qui vous a marqué en 2015 à l'association, ou un jeu qui sort beaucoup, le premier jeu qui vient à l'esprit?
Je pense que ça serait Mysterium, le jeu qui est le plus sorti sur la fin d'année en tout cas, puisqu'on peut y jouer, que ce soit entre joueurs ou même avec les enfants, c'est vraiment le jeu coup de cœur, je dirais, de la fin d'année.
Ok, très bien. Moi, je te remercie.
De rien.
Maëva.
Bonjour, donc Maëva, présidente de l'association La Taverne des Joueurs, qui est basée à Grèce-Villers. Nous, on se réunit tous les mardis soirs de 19h30 à 23h30 dans la salle du temps libre de Grasse-Villers.
Vous avez plutôt un public joueur, familial ?
Alors, on est plus sur un public joueur. Les jeux qu'on propose, c'est essentiellement des jeux qui s'adressent à des personnes de 12 ans et plus, sur des parties qui varient entre 1 heure et des fois 5 heures. Mais voilà, c'est déjà
du gros jeu.
Voilà, c'est déjà du jeu un petit peu plus complexe au niveau des mécaniques.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'événement ludique qui a lieu ce week-end ? Donc, aujourd'hui, on est le samedi 30 janvier. Donc, l'événement qui a lieu aujourd'hui et demain, samedi 30 et dimanche 31 janvier.
Alors, c'est la deuxième fois que nos deux associations, en fait, on s'est rencontrées puisqu'on était créées à peu près au même moment. Et c'est la deuxième fois qu'on organise, on avait décidé d'organiser un événement en commun. Donc, l'année dernière, on a fait un petit essai. Puis, donc, cette année, du coup, on a décidé d'organiser les Ludopholies. Donc, c'est vraiment l'objectif de faire découvrir le jeu au plus grand public. Donc, il y en a pour tous les goûts, tous les âges. Des plus petits jusqu'aux gros joueurs. Et on essaye de faire découvrir les jeux qui nous ont bien plu l'année dernière, les dernières sorties. Voilà, puis les jeux qu'on aime
bien. J'ai vu, il y a beaucoup de tables à disposition pour tous les joueurs.
Voilà, et puis on a une belle salle, donc une belle salle, une belle grande salle qui permet vraiment d'avoir de l'espace et de pouvoir organiser dans de bonnes conditions.
J'ai vu que vous organisez aussi quelques tournois pour pimenter un peu le...
Oui, on a 3 tournois qui sont prévus sur ce week-end. Donc aujourd'hui, samedi, on a un tournoi d'écho et un tournoi de splendeur.
D'accord.
Qui sont prévus. Donc là, c'est des tournois plutôt pour les adultes. Et demain, on propose pour les enfants un tournoi de Dr. Eureka.
Alors malheureusement, les auditeurs, quand ils entendront cette petite chronique, le festival sera déjà terminé. Mais est-ce qu'on peut leur donner rendez-vous pour l'année prochaine ?
Normalement, oui.
Oui, il n'y a pas de raison, oui.
Il n'y a pas de raison.
Normalement, donc, fin janvier, on devrait renouveler cette manifestation.
Ok, très bien. Bah, je vous remercie beaucoup tous les deux pour cette participation et à l'année prochaine.
Bah, merci à toi.
Merci.
Ah, ça avait l'air sympa. Il faudrait que j'y aille dans un festival un jour.
Quoi ? Vous ne faites pas votre pèlerinage annuel obligatoire ? Alors ça, c'est grave. Très grave. Rassurez-moi. Vous étiez à Essen.
Oui, j'y ai mangé, et puis je suis allé boire à Trinken, et ensuite je suis allé dormir à Schlafen.
Que Kramer me croque et Kiesling me craque. Je n'arrive même plus à rédiger toutes mes contraventions pour mauvais jeu de mots. C'est désespérant. Avez-vous une preuve de votre séjour au salon d'Essen ?
Bien sûr, j'ai un billet de train à vapeur qui l'atteste.
Ah, vous remontez dans mon estime.
Steam, le jeu de gestion à cube et à vapeur, j'adore. Une petite partie de 2-3 heures ?
Un bon rail, ça ne se refuse pas.
Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro des plateaux numériques. Cette fois-ci, je vais vous présenter Steam, Rails to Riches. Un jeu de Martin Wallace qui a été adapté sur tablette. Alors le jeu a été édité pour la première fois en France en 2010 chez Edge. Steam est en fait l'héritier de Edge of Steam, qui lui est sorti en 2002, donc du même auteur. C'est le même jeu révisé au niveau de ses règles et de ses graphismes. Pour autant, il faut quand même avoir conscience que ça reste du graphisme wallacien. Dans Steam, vous êtes à la tête d'une compagnie ferroviaire que vous allez devoir faire fructifier. Il s'agit d'un jeu de gestion, d'enchères et de pick-up and delivery. Donc Steam est vraiment un classique dans son genre. C'est un jeu comme Wallace sait les faire, dans lequel il va falloir contracter des emprunts pour faire des investissements, un mécanisme qu'il a repris ensuite dans Brass. C'est très très punitif hein, dans cet aspect-là. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression de pas avancer au début, on s'enlise, et il faut vraiment contracter des emprunts pour pouvoir déclencher la machine industrielle et vraiment réussir à démarrer la machine à point en fait. Donc le jeu a été adapté en novembre 2015 par Akram, qui est un studio plutôt inconnu au bataillon. C'est son premier jeu en fait adapté sur tablette. Moi je vais vous parler de la version iOS pour n'avoir testé que celle-ci. Alors, il faut savoir que le prix de vente de cette version est de 4,99€ sur iOS, tandis qu'il est de 5,48€ sur Android. On a déjà pu voir des tarifs en baisse dernièrement pour ces versions. Pour vous présenter un peu l'application, d'abord il existe bien un tutoriel, il est possible de jouer un tutoriel. Honnêtement, si vous ne connaissez pas le jeu, je trouve que le tutoriel est assez insuffisant. Ça va vous expliquer les bases, hein. Vous allez démarrer une partie en fait avec des explications, on va vous guider un peu sur quoi faire, et puis au bout d'un moment vous allez être lâché dans la partie. Honnêtement, moi j'avais déjà joué une fois, donc j'ai réussi à comprendre un peu les aspects, mais vous n'allez pas réussir à développer une stratégie sans avoir les tenants et les aboutissants à cause de ça en fait. Voilà. Donc moi je trouve que le tutoriel est vraiment perfectible et qu'il va pas assez loin en fait. Je pense qu'il aurait été peut-être intéressant de le découper pour aborder les différentes facettes du jeu. Et puis avoir éventuellement une partie guidée jusqu'au bout s'il le faut. Mais voilà, moi j'ai eu un petit bémol sur le tutoriel. Le jeu en lui-même propose donc un mode de jeu en local uniquement, il n'y a pas de version en ligne. J'ai entendu parler peut-être dans une prochaine version d'un mode en ligne. L'application est livrée avec une seule carte, la carte 3-4 joueurs des États-Unis. Et donc il est possible de jouer contre des IA et en pass and play. Alors, on peut choisir sa couleur, son nom, voilà, somme toute assez classique. Il y a trois niveaux d'IA différentes, avec des compétences en fait. Il y a deux compétences, une compétence d'agressivité et une compétence de prise de risque. Ce qui va faire que les IA plutôt agressives vont créer de l'interaction. Pas toujours très positive, hein, évidemment. Mais voilà, ça va créer de l'interaction dans le jeu. Tandis que les IA qui vont prendre des risques vont aller tenter des stratégies un petit peu parfois farfelues, hein, franchement. Quand vous tapez une IA qui prend beaucoup de risques à un niveau faible, elle va avoir tendance à partir en faillite dans la partie. Et justement, parlons-en de la faillite. La faillite, c'est le bug de l'appli actuellement. Moi, j'imagine que ça a déjà été remonté, mais actuellement, si vous avez un joueur qui part en faillite, ben vous pouvez remballer. Le jeu est bloqué, vous pouvez faire une autre partie. C'est assez pénalisant quand même, parce que bon, encore s'il tombe en faillite au début, ça va. C'est une application, donc on rejoue assez vite. Si ça tombe à la fin, vous êtes un peu vénère, surtout si vous étiez en train de gagner, quoi. Voilà. Alors sinon, l'interface est plutôt réussie. On arrive à avoir toutes les infos avec des systèmes de petits menus qui sont affichables, masquables, voilà. Donc on arrive vraiment à accéder à toutes les informations. Et on a bien la possibilité d'annuler un coup. Donc ça, c'est très positif. Une petite fonction intéressante, ils ont pensé aux daltoniens. On va livrer des marchandises qui sont en fait des cubes de couleurs simplement. Et donc ils proposent dans ce mode daltonien de rajouter des symboles par-dessus les couleurs pour mieux identifier les choses. Alors, n'étant pas daltonien, je ne sais pas si c'est très efficace. J'imagine que ça doit l'être. En tout cas, ça a le mérite d'exister et ça a le mérite du coup d'être souligné. Les autres fonctionnalités. On a un accès aux règles du jeu. Alors, sauf que ces règles du jeu sont la version PDF des règles en anglais, même pas des liens vers des règles dans d'autres langues. Du coup, c'est un peu dommage. D'ailleurs, ce que j'ai oublié de signaler, effectivement, c'est que le jeu est disponible en français. Ça, c'est un vrai point fort. Le jeu a été traduit en, je vais peut-être dire une bêtise, mais en une vingtaine de langues apparemment. Donc vraiment un grand coup de chapeau pour ça. Ouais, moi j'exagère, il y a une dizaine de langues. Dans les options, donc ce que vous allez retrouver également, c'est des choses assez classiques, hein, réglage du son, des effets sonores, voilà, la vitesse des animations, etc. Des choses assez classiques. Et enfin, il y a la possibilité de renvoyer un feedback. C'est pour ça que je dis que j'imagine que le problème a déjà été remonté. Il y a un petit bouton pour renvoyer un feedback. Alors, je ne sais pas si ça marche bien ou pas, mais en tout cas, ça existe. Voilà. Voilà un petit peu pour le tour d'horizon de l'application. Est-ce que je vous la conseille ou pas? Honnêtement, si vous débutez, si vous n'avez jamais joué à Steam, je pense que vous n'allez pas réussir à apprendre à jouer à Steam avec l'application. En tout cas, il va vous falloir un bon paquet de parties pour apprendre. Bon, cela dit, le jeu est quand même pas évident au premier abord. Mais honnêtement, je vous conseille plutôt de trouver quelqu'un qui a le jeu et qui va vous expliquer le jeu plutôt que d'acheter l'application pour ça. Après, si vous aimez Steam et que vous cherchez des joueurs, Bon, vous ne les trouverez pas en ligne, puisqu'il n'y a pas de mode en ligne. Mais les IA ont l'air plutôt pas mauvaises. Le niveau difficile, en tout cas. N'étant pas expert, je ne peux pas me prononcer complètement. Les IA m'avaient l'air quand même plutôt de tenir la route. Donc je pense que ça peut être intéressant, si vous aimez Steam et que vous voulez jouer un peu plus souvent. L'éditeur de la version sur tablette prépare apparemment une version en ligne. Prépare également des achievements. Et une carte 2 à 6 joueurs. Ce que j'ai pas expliqué également, c'est qu'il est possible d'acheter actuellement en ligne une carte qui permet de jouer de 3 à 5 joueurs. La carte de l'Allemagne en fait. En fait tout ça sont des cartes qui existent hein, pour le jeu réel. Voilà, donc ils vont les développer pour qu'elles soient accessibles dans le jeu, sur tablette. Donc le jeu est disponible à 4,99€ sur iOS avec la carte donc, des États-Unis et la carte de l'Allemagne est disponible à 2,99€. Alors d'ailleurs le prix n'est même pas indiqué dans l'application, ce qui est un peu dommage je trouve. Voilà, donc en résumé je vous le conseille si vous connaissez bien le jeu, si vous ne connaissez pas je vous conseille franchement plutôt de chercher un joueur qui connaît bien le jeu avant de savoir si vous allez acheter l'application ou pas. On se retrouve la prochaine fois pour un autre plateau numérique. Et d'ici là, jouez bien. Ah, vous pensiez que c'était fini? Eh non, c'est encore Cyrus. Bon, alors voilà, dans l'intervalle de mon enregistrement et de maintenant, donc entre l'enregistrement et la diffusion, il y a une version majeure qui est sortie pour Steam, une version 2.0. Et du coup, ça change pas mal de choses. Enfin, voilà. Donc, ils ont ajouté une carte, la carte du Barin et de la Roure. Donc, ça veut dire que maintenant, vous bénéficiez de deux cartes et plus d'une seule. Ils ont affiché les prix sur les cartes à vendre. C'est quand même un peu plus malin. Ils ont amélioré l'IA. Bon, ça, je vous, j'ai pas vérifié encore. Et ils ont ajouté le mode basique, c'est-à-dire les règles basiques de Steam. Ça consiste en gros à supprimer la partie enchère. Voilà, maintenant vous savez tout. Bon, pour autant, ça change pas vraiment mon avis. Hein. Vous pouvez considérer les choses telles que je les ai dites. Allez, cette fois-ci, je vous dis au revoir. Jouez bien.